Vous êtes en couple, vous préparez votre mariage ou vous venez de vous marier? Dans tous les cas, c'est l'aventure, nous en savons quelque chose. Mariés depuis 4 ans, mais amoureux depuis bien avant, nous vivons chaque jour cette aventure avec une grosse dose de joie, beaucoup d'excitation et de temps en temps une pincée d'appréhension. Nous nous appelons Aurélie et Joseph, et avec le père Pierre-Marie Castaignos, prêtre chez les serviteurs de Jésus et Marie, auteur du livre « Se marier et durer » aux éditions Salvator et grand spécialiste des relations de couple, nous sommes ravis de vous inviter à suivre ce petit parcours de préparation au mariage en 7 épisodes.
Dans ce 7e et dernier épisode, nous allons aborder un sujet particulièrement difficile parce que très intime et très profond, la vie spirituelle du couple. Comment avoir une vie spirituelle ensemble ? Bonne écoute. Bonjour mon père.
Bonjour Aurélie.
Dans ce dernier épisode du podcast « Se marier et durer », nous allons aborder le sujet le plus intime qu'il soit au sein d'un couple, la vie spirituelle du couple. Alors peut-être pour amener un petit peu ce sujet, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce qu'il faut qu'un couple ait une vie spirituelle ?
Vous faites tout à fait bien de dire que c'est le côté le plus intime, parce que... La vie spirituelle touche la relation avec Dieu, touche le cœur à cœur que chacun a avec le Seigneur. Et du coup, ça renvoie aussi à cette manière de montrer à l'autre quelle est ma relation avec Dieu. Mais pourquoi avoir une vie spirituelle ? Pour ne pas être dans le face-à-face de psychologie blessée. Parce que s'il n'y a pas de vie spirituelle... Il n'y a pas d'ouverture à plus grand que soi. Et s'il n'y a pas d'ouverture à plus grand que soi, il n'y a pas d'espérance. C'est un peu les dominos qui tombent, les uns à la suite des autres. Du coup, on est juste soit dans des rapports de force, l'un avec l'autre, mais du coup, le fait d'avoir accès à une miséricorde, à un sacrement du pardon, à une prière ensemble, aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction, et donc compris, vous regardez ensemble dans la même direction, le couple se donne beaucoup plus de chances de réussir avec une vie spirituelle que sans. Et sache que bon, certains couples pourront faire sans parce que voilà, la compatibilité des caractères est au rendez-vous. Mais c'est plutôt quand arrivent les difficultés, puis même, je trouve, au-delà des difficultés, même s'il n'y a pas de difficulté particulière dans le couple, d'être attentif aux appels du Seigneur. Le Seigneur lance des appels pour les couples, de façon à être missionnaires là où ils sont, dans leur milieu professionnel, dans leur paroisse, dans leur quartier, que sais-je. Du coup, le fait d'avoir de se priver de vie spirituelle, c'est se laisser aussi emporter par des forces centrifuges, et donc ne pas avoir de vie intérieure. Et ne pas avoir de vie intérieure, c'est ne pas être attentif à ce que le Seigneur peut dire au cœur de chacun et au cœur du couple.
Sur la prière en couple, alors, il peut être difficile de prier en couple pour plein de raisons. Par pudeur, par fatigue, tout simplement aussi parce qu'on n'a pas le temps. Et est-ce que c'est vraiment indispensable de prier en couple si chacun prie déjà de son côté ?
Je trouve que ça donne un style de couple. Ça donne un style de couple. Parce que c'est vrai, ce que je vois dans les couples qui sont chrétiens, qui veulent mettre le Seigneur... et qui ont un contact personnel avec le Seigneur, je trouve le fait de... Ça apporte autre chose. De même, la prière en famille. Parce qu'on voit parfois, dès que l'enfant paraît, du coup, comme il y a le besoin de transmission et que la foi fait partie des choses qu'on transmet avec l'ADN, avec le patrimoine, avec les valeurs, etc., du coup, souvent, en tout cas, un certain nombre de couples mettent la vie de prière familiale en route. Mais du coup, laisse de côté la vie spirituelle. Et je trouve que, du coup, ça, le fait de laisser de côté la vie spirituelle sous prétexte que soit il y a une prière familiale, soit il y a une prière personnelle, vous perdez une intimité.
Vous pouvez nous dire la différence que vous faites entre la vie de prière et la vie spirituelle ?
C'est pareil. Vie spirituelle, vie prière, c'est pareil. C'est d'autres manières de dire les choses. Une vie spirituelle, si ce n'est qu'il peut y avoir des spiritualités qui ne sont pas religieuses. Nous, dans mon cadre, c'est le même, c'est s'adresser au Seigneur. Mais le fait d'avoir une vie spirituelle, une vie de prière, une vie une intériorité, pour moi, c'est des mots qui sont assez semblables, en tout cas, qui je les vois dans une continuité. Le fait d'avoir ça, ça pousse le couple à aller à regarder à l'intérieur de lui-même et de voir comment le Seigneur, dans leur lien, il y a quelque chose qui se dévoile du couple quand on prie. Quand on prie et quand on prie aussi, pas seulement dire on va à la messe. Parce que je trouve que quelque part, ben c'est le prêtre qui fait le boulot, vous êtes là plus en mode spectateur, etc. Bon, mais de dire, c'est aussi le dévoilement d'une intimité. C'est que cette intimité-là, elle peut se dévoiler au sein même des fiançailles. Oui, c'est, je vois parfois des couples que j'accompagne, etc., des couples de pratiquants, etc., disent « Oh non, nous sommes très pudiques, nous ne voulons pas, etc. » Mais bon, par ailleurs, ils sont moins pudiques par rapport au pyjama, par exemple. Donc, du coup ça, c'est marrant, parce que... mais quelque part, je les comprends, parce que c'est l'intimité la plus grande. C'est l'intimité clairement la plus grande. Parce qu'on a peur d'être ridicule face à l'autre. Il y a aussi ça qui se joue. On a peur d'être jugé par l'autre. Quand on va s'adresser au Seigneur à haute voix, quand on va s'adresser à Jésus, grosso modo, une prière de couple, c'est quand même, comme dit Ignace de Loyola, c'est « merci, pardon, s'il vous plaît ». C'est des choses assez basiques, il n'y a pas besoin que ce soit très long. Mais le fait de ritualiser ça, ce qui fait que le couple se pense en fonction de Dieu, d'une certaine manière, va invoquer le Saint-Esprit dans un certain nombre de décisions à prendre, etc. Il ne sera pas, là encore, enfermé sur lui-même.
Et justement, vous parlez de rituels. Quels seraient les conseils que vous pourriez donner à des fiancés ou à de très jeunes mariés pour mettre en place une routine spirituelle au sein du couple? Et une routine spirituelle qui permet d'aller au-delà de cette pudeur et de cette peur du regard de l'autre.
C'est ça. Alors, se donner des rendez-vous, tout simplement. Le fait de se donner des rendez-vous dans la prière, particulièrement les couples qui vivent sont à distance, par exemple, mais pas que, ou des couples qui connaissent un moment d'éloignement géographique pour X raisons, etc. Déjà, dans les fiançailles, d'avoir ces moments de, on dit, voilà, tel jour, telle heure, on sait qu'on prie l'un pour l'autre. Et on prie ensemble le Seigneur, et voilà, et chacun, on le sait. Donc, le fait de dire qu'il y a des rendez-vous, là, encore une fois, c'est ritualiser les choses, rentrer dans une routine au sens très positif des choses, c'est-à-dire, on ne se pose pas 15 questions, c'est le temps de la prière. Parce que et du coup le fait de la prière, je trouve ça à deux, ça permet justement d'ouvrir à quelque chose de plus grand et de laisser aussi le Seigneur interpeller le couple. Ça donne une occasion au Seigneur d'interpeller le couple, alors pas par téléphone, etc., mais dans le cœur du couple, peut-être de dire, de répondre à des appels, d'être attentif. Ce qu'on appelle l'émotion du Saint-Esprit. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'émotion de l'Esprit. Des intuitions, on pourrait dire, de façon un peu laïque. Les intuitions, l'émotion du Saint-Esprit, c'est des choses. Mais si on ne prend jamais le temps de l'intériorité dans le sens vie de prière, comment vous voulez être à l'écoute des émotions du Saint-Esprit? Vous êtes dans une extériorité, vous êtes attiré par des forces centrifuges qui vous emmènent loin l'un de l'autre. Et on devient analphabète de soi-même aussi. Même en termes de connaissances simplement, je veux dire, humaines de soi-même, on devient beaucoup moins attentif à ce qui se passe dans notre cœur.
Sur les types de prières, enfin, de ce que j'ai pu voir, c'est que les catholiques ont tendance à prier, du moins en France, de manière plus calme, plus silencieuse, tandis que les évangéliques ont tendance à prier avec de fortes louanges, avec des musiques, avec de la musique pop. Qu'est-ce que vous préconisez Est-ce qu'il y a une méthode?
Qu'est-ce qui vous convient? Vous êtes les mieux à même, de même pour l'éducation des enfants, etc. Vous êtes les mieux à même de dire qu'est-ce qui vous convient? Qu'est-ce qui vous va bien? Et non seulement qu'est-ce qui vous va bien, mais c'est de dire qu'est-ce qui vous fait du bien? Et dans ce sens-là, je trouve que ça peut être un « Je vous salue Marie », ça peut être des intentions de prière qu'on vous confie, des personnes dont vous savez que ces personnes traversent telle ou telle difficulté, etc. Et vous voulez les confier au Seigneur. Et quand vous dites « On prie pour vous », c'est une manière aussi de, quelque part, d'évangéliser. Quand on vous confie une intention, et non pas « On pense à vous ». Je veux dire, c'est pas, pour moi, c'est pas pareil. de dire on pense à vous et on prie pour vous. Je pense même au niveau des collègues, etc. Le fait de dire qu'on porte les autres dans la prière, que le couple a un temps de prière et qu'il se retrouve où il porte aussi les autres intentions. Tout simplement, je veux dire, un couple, pourquoi un collègue vous annonce pourquoi le décès d'un parent, etc. Mais écoute, je prie pour toi. Ben, c'est tellement inhabituel, tellement, voire, entre guillemets, choquant en France, en tout cas, alors que, bon, dans des tas de pays, ce ne sera absolument pas choquant. Mais si vous le dites ça, c'est très fort. C'est juste trois mots. Hein. Je prie pour toi, point. Et du coup, ça, moi, ça me renvoie aussi avec la question de l'évangélisation. C'est-à-dire que le couple aussi a sa fécondité, c'est d'annoncer le Christ et donc, du coup, de dire aussi ce que le Seigneur a fait dans sa vie.
Est-ce que vous auriez des conseils ou des recommandations à donner au couple quant au moment de la journée auquel prier ?
Alors, les spirituels sont unanimes. Ce qui est fait le matin est fait. C'est pour ça que nous, par exemple, comme religieux, notre vie d'oraison, le temps d'oraison, c'est-à-dire de prière silencieuse, c'est le matin. Parce que le matin, on est reposé, l'esprit est reposé, il n'y a pas toute l'agitation ou... Plus ou moins, ça dépend de la nuit qu'on a eue, c'est ça que tu veux dire. Bon, ça peut être, c'est sûr, si on est jeune parent, ça peut être un peu parfois bousculé. Bon, on est censé être reposé. En tout cas, il n'y a pas eu tout le flux de la journée, de tension, de réaction, de réactivité, etc. Parfois, qu'il peut y avoir. On arrive. Et ce qui est fait le matin est fait. Ce qui est fait le matin est fait. Et je trouve que le risque de ne pas le faire le matin, c'est de ne pas faire du tout. Ou alors qu'on est dans le lit matrimonial et puis on commence un « Je vous salue Marie » sans le terminer. Tu vois. Donc, je trouve que, là encore, c'est juste, ça peut être une prière que vous avez fabriquée. Pourquoi pas votre prière des époux ? Qu'est-ce qui vous va bien ? Soyez, c'est l'irruption du sacré dans le couple. C'est pas une question de longueur, c'est pas une question de. C'est juste que le couple reste en chemin. Et moi, c'est toujours une question que je me pose comme prêtre quand j'accompagne au mariage. Des personnes qui ne sont pas forcément pratiquantes, par exemple, il y en a un certain nombre de couples qui ne sont pas pratiquants, qui sont catholiques, d'éducation, etc. Et qui ne. Je leur dis, restez en chemin. C'est-à-dire que quel va être votre point de contact avec le Seigneur ? Que ce ne soit pas un one-shot. Moi, j'ai peur un peu du one-shot, vous voyez. Le one-shot, c'est-à-dire qu'on fait tout, la préparation au mariage, etc. Le jour J, c'est magnifique, etc. Après, silence radio, quoi. Donc,
voilà. Mais que faire, du coup, lorsqu'il y a un décalage dans la vie spirituelle ? Vous en avez un qui est très croyant et l'autre beaucoup moins. Forcément, c'est source de tristesse dans le couple.
Alors, que celui qui est moins impliqué dans la foi soit le gardien de la foi de l'autre. Celui qui est moins impliqué dans la foi, soit le gardien de la foi de l'autre. C'est-à-dire que je suis moi-même pas ou peu croyant. Je me suis marié aussi peut-être pour faire plaisir à l'autre, à l'église. À la limite, ça aurait été une autre femme. C'est souvent les filles qui sont plus demandeuses, mais ça peut être des hommes aussi. Un autre conjoint, ben, peut-être j'aurais été simplement mariage civil, peut-être pas du tout de mariage, et j'aurais vécu comme ça. N'oublions pas, 66% des enfants naissent hors mariage civil. Bon, voilà, donc ça leur convient bien, ça convient bien à ces couples-là. Bon, voilà, j'aurais pu... Mais bon, chez... épouser mon conjoint à une vie spirituelle, est attaché à la foi, etc., etc. Moi, j'ai pas eu beaucoup de choses, j'ai pas reçu grand chose, mais je me suis le gardien de la foi, je rends possible la foi de l'autre. Je vous donne un exemple, un couple que j'ai accompagné où il y avait ce décalage très fort. Il y avait deux décalages, un décalage social et un décalage spirituel. Un décalage social, lui était de milieu ouvrier, elle est de milieu aristocratique et spirituel, lui était juste baptisé, les parents sont pourquoi ils ont baptisé, il sait pas encore pourquoi il a été baptisé, mais pas de catéchisme, pas de première communion, rien du tout, aucun sacrement, et elle au contraire très impliquée, le scoutisme, les JMJ, bon, les aumôneries, bon, tout ce qui peut faire la vie d'un jeune chrétien fervent. Et du coup, et c'était très beau, et c'est encore très beau ce couple-là. Moi, il m'inspire beaucoup ce couple-là. Parce que, par exemple, dans sa famille, on n'allait pas à la messe de Noël. Il y avait zéro. C'est y a rien. Rien du tout. Il n'y a pas de. Il y avait aucune dimension, ni même les grandes fêtes, etc. Rien du. Rien, mais vraiment rien du tout. Et du coup, je lui dis, mais tu vas être le gardien de la foi de ta fiancée, dans le sens que quand vous serez chez tes parents, dans ta famille, eh bien, tu t'assureras que ta fiancée ait une messe. Et tu te préoccuperas que, au moment, par exemple, de Noël, où la famille se. Etc., même si les autres membres de la famille ne viennent pas, ben, que tu puisses dire ben, écoutez, on va aller, nous, à la messe à 18h, qui rend possible aussi le fait de partager le repas. On peut aussi être intelligent et donc rendre possible que le lien avec la famille de l'autre, même. Voilà, on ne va pas se mettre dans une situation de tension. Donc, du coup, et je trouve ça. Et c'est ça qu'ils ont fait. Et lui a clairement progressé. Sa famille, à lui, a progressé. Ça, mais tout simplement, c'est notre choix, etc. Nous, pour nous, c'est quelque chose qui est important. Et pour ma femme, c'est important, ce moment-là, dans la semaine. Et j'entends le respecter, etc. Est-ce que vous y voyez un inconvénient ? En général, personne n'y voit d'inconvénient. Ce que je trouve, c'est qu'on pêche beaucoup par auto-inhibition. En France, je trouve ça hallucinant. Ça empêche beaucoup. On même, par exemple, des couples, une réunion, alors que tout le monde est catholique autour de la table, on n'ose même pas faire un bénédicité. Ça me paraît aberrant. Il y a un moment donné, soit on est attaché au Christ, à l'Évangile, à son Église, on a la dimension de la vie de prière, de la vie sacramentelle, est quelque chose qui compte dans notre foi, compte pour nous. Et alors, du coup, ben. Pourquoi pas, là aussi, lancer un bénédicité, je crois, les dimanches, on parlait de rituel, les dimanches midi, bah, il y a un bénédicité dans votre famille. Ça dit un style de couple, de même la prière familiale ou matrimoniale, ça dit un style de couple. Oui, c'est pas forcément, comment dire, quelle est l'irruption du sacré dans votre vie, en quoi il y aura un point de contact, comment dire. C'est pas forcément la longueur des choses, c'est juste parce qu'il y a un point de contact avec le Seigneur et que la présence de Dieu et la grâce de Dieu est tellement forte que ça peut carrément faire bouger les lignes. C'est pas la quantité de prières qui va obtenir la conversion. On n'est pas payé au nombre de « Je vous salue Marie », etc. On n'est pas, il n'y a pas de rétribution, et heureusement. Hein, mais le fait simplement de dire à un collègue « Je prie pour toi », le fait de faire un bénédicité autour de la table familiale chez vous ou même chez vos parents, etc., de lancer, bon, sachant que tout le monde autour est plus que favorable, et pourtant ça ne se fait pas. Vous voyez, ce que je trouve, c'est qu'il y a cette inhibition, cette pudeur qui est de mauvaise aloi, qui est vraiment de mauvaise, qui ne fait pas du bien.
Oui, on est beaucoup trop scrupuleux.
Beaucoup trop. Beaucoup trop. Sous prétexte qu'il faut laisser les autres libres. On les laisse libres. Je dis, quelqu'un, je prie pour toi. Bon, et à la limite, il s'en fout, quoi. C'est tout. Mais on est beaucoup trop scrupuleux, alors qu'on pourrait faire beaucoup de bien, avec peu de gestes, mais des gestes qui sont tellement forts parce qu'ils mettent en contact avec le Seigneur.
Donc la vie spirituelle du couple, ça peut aussi être une irruption permanente de plein de petites choses du sacré.
Du sacré, ben merci Seigneur pour ça, ben remercie le Seigneur pour ceci. Moi je vois ça comme une respiration, puis même, et c'est ça qui donne aussi, on voit aussi auprès des enfants, le fait de merci Seigneur pour, tu vois, on va prier pour tous ces gens qui sont en train de quitter leur pays, on sensibilise l'enfant, ben, tu vois, on prie pour eux, etc., on rend grâce, on dit merci Seigneur d'être une famille, ben on n'a pas à vivre ça, bon voilà, alors que d'autres familles voudraient vivre ce que nous on vit en termes de sécurité et ne l'ont pas. Donc, ouais, des petites choses, moi, des louanges, merci Seigneur pour ceci. Mais vous voyez, c'est des choses simples qui donnent le goût et qui, parce qu'elles sont en contact avec le sacré, évidemment, sont chargées de la grâce. Donc, et la grâce, pour le coup, bah, c'est la puissance de Dieu, donc c'est considérable. Donc voilà, moi j'ai cette conviction-là. Alors j'ai une autre conviction, que l'homme soit le leader spirituel de sa famille. Alors ça, c'est une autre conviction qui est...
Ça va. Il me semble que ça va l'inverse de ce que saint Paul disait, non ? Que c'est la femme qui est le roc
de
la vie spirituelle ? Ou je me trompe ?
Il a dit beaucoup de choses, etc. Mais c'est possible. Mais je pense que je trouve que on délègue. Pourquoi ? Ça ne veut pas dire que la femme, est, bien sûr, n'est pas impliquée. Pourquoi je dis que l'homme soit le leader de spirituel de son couple et de sa famille ? Parce que je trouve qu'au contraire, on laisse les femmes beaucoup trop seules. On parle des dames catéchistes, on ne parle pas des messieurs catéchistes, par exemple. C'est-à-dire que, comme, d'une certaine manière, l'homme se désentendrait de la vie de foi et sous-traiterait à la maman, alors que voir son père prier, voir ses parents prier, simplement les voir à genoux, simplement ça. Pour un enfant, c'est quelque chose qui touche. Je veux dire, il y a des gens qui se rappellent encore de leurs grands-parents prier, qui priaient. Voilà. Et le fait de prier, bah, du coup, on venait à leur côté, etc. C'est juste ce témoignage-là, sans grand discours, et que l'homme dise, sache qu'il a tout à fait sa part et qu'il est légitime dans le fait d'initier. Hein, aussi les prières, de s'impliquer dans cette dimension-là.
Alors, dernière question, un petit peu connecte à ce sujet, qui est un peu la question bonus pour ceux qui ont écouté les 7 épisodes de ce podcast et qui arrivent au bout avec nous. La vie spirituelle des mariés commence avec le sacrement du mariage. C'est la vie sacramentelle qui commence aussi là. Mais tous les fiancés le savent, et ceux qui nous écoutent et qui préparent leur mariage en ce moment le savent mieux que personne. Il est extrêmement difficile, lorsqu'on prépare son mariage, de ne pas passer un temps et une énergie considérable sur la réception qui va à côté. Et en fait, on sait tous qu'un an en avance, il peut y avoir un stress énorme sur des tas de choses qui sont plus importantes les unes que les autres. Mais quelle est la place à donner à cette préparation matérielle ? Sachant que, comme tout, ça veut toujours dire quelque chose derrière.
Alors, cette préparation matérielle, du coup, la place à donner, elle s'impose au couple, aux deux fiancés. Donc, d'une certaine manière, c'est juste de dire que, qui a l'agenda de cette préparation matérielle ? Est-ce que cette préparation matérielle occupe une telle place que ça met entre parenthèses leur vie spirituelle ? Par exemple, dans la vie spirituelle du couple, moi, je vois forcément une retraite par an. Pour moi, ça, c'est même pas un sujet. C'est une retraite par an. C'est salvateur. Si tous les couples faisaient une retraite par an, souvent on aborde des questions de couple, etc., c'est complètement salvateur. Vous voyez ? Donc, c'est le fait d'avoir, de se dire que la dimension matérielle, elle est importante. Elle dit quelque chose de la manière de fonctionner des familles, du rapport à l'argent des familles, des codes qui sont vécus dans chaque famille, etc. Il y a plein de choses. Mais est-ce que j'ai moi-même, est-ce que je suis attentif à ce que ça ne vienne pas parasiter l'ensemble de ma vie et singulièrement parasiter ma vie de foi et ma vie de prière, quoi.
Merci beaucoup, mon père, pour ces 7 épisodes.
Merci.
Alors, vous avez écrit « Se marier et durer », qui est disponible aux éditions Salvatore et dont les références sont rappelées à la fin de chacun de ces épisodes. Et vous animez également beaucoup de retraites de discernement et de préparation au mariage. Donc, ceux qui le souhaitent et qui souhaiteraient vous rencontrer pour de vrai, vont sur le site des serviteurs de Jésus et de Marie, c'est ça ?
Oui, serviteurs.org, exactement. Et j'ai écrit donc ici le livre sur le discernement SUSL et vient de sortir là aux éditions des Béatitudes un petit recueil sur la colère, traverser sa colère, donc qui peut aussi faire partie de la dimension de vie de couple. Donc voilà. Donc, et je souhaite aussi, je travaille à l'écriture peut-être d'autres ouvrages sur la question du couple.
Merci beaucoup.
Merci Aurélie et Joseph.